RCF. Catholique et société, avec Yann Lecoz, le regard d'un catholique aujourd'hui face aux multiples défis de son temps.
Bonjour Yann, bonjour Monsieur Janson. Ce matin, excusez-moi, mais j'aimerais bien mettre un petit peu le feu aux poudres, ou plutôt le feu aux idées reçues. Bien sûr, nous l'avons vu, vous l'avez dit, tout travail mérite salaire. Mais si je vous dis « à travail égal, salaire égal », est-ce que nous n'avons pas là des sources d'injustice éventuellement, de tension, de conflit ? Qu'en est-il dans vos expériences ?
D'autant que l'Église dit qu'on est tous égaux devant Dieu le Père. Donc vous confirmez « à travail égal, salaire égal ».
Ben, c'est bien de faire les réponses à ma place.
Pardon.
effectivement, travail égal, salaire égal, c'est une formule merveilleuse, c'est simple, c'est de l'arithmétique. Ça aurait pu être inventé par un technocrate quelque part, et donc c'est forcément en lien direct avec la réalité. Donc, formule séduisante mais fausse. Le salaire.
Fausse. Vous dites fausse.
Oui, bien sûr, fausse. Fausse dans l'application, parce que tout le monde sait ce que c'est que le salaire. C'est facile à quantifier le salaire, mais qu'est-ce que le travail ? Qu'est-ce que le travail ? Est-ce qu'on sait faire les distinctions entre ce qu'est le travail vraiment, le travail réel, et par rapport au résultat du travail ? Et donc, qu'est-ce qu'on paye ? Que signifie la formule ? Si vraiment on s'intéresse au travail, alors ça me rappelle une anecdote. Un jour, le patron d'une très belle entreprise me parle du projet qu'il avait d'instituer une prime de présence. Et il me demande pour ses collaborateurs, parce que il constatait beaucoup d'absentéisme et il pensait qu'avec une prime de présence, il corrigerait cet état de fait. Et donc, avant de lui répondre, je me suis permis de lui poser juste une seule et toute petite question. Cher monsieur, projet intéressant, naturellement, mais est-ce que vous pourriez me dire pourquoi vous payez vos collaborateurs ? Et là, il y a eu un blanc, qui est un petit peu gênant, il faut bien reconnaître, parce qu'en fait, il n'avait pas de réponse instantanée. Lui-même ne savait pas pourquoi. Alors j'ai essayé de l'aider, je lui ai dit, mais est-ce que vous payez vos collaborateurs parce qu'un jour ils ont signé un contrat de travail, est-ce que vous les payez parce qu'ils sont là, est-ce que vous les payez parce qu'ils font à peu près ce que vous leur demandez, est-ce que vous les payez parce qu'ils sont prêts à former les nouveaux arrivants, est-ce que vous les payez parce qu'ils ont des idées qu'ils partagent, est-ce que vous les payez parce qu'ils font remonter les difficultés qu'ils rencontrent, est-ce que vous les payez parce qu'ils sont intéressés par le progrès, est-ce que vous les payez, enfin vous voyez, il y a une multitude de raisons, tout ça, donc au fond, pourquoi les payez-vous ? Donc il savait toujours pas, donc il a remisé son projet de prime de présence en disant qu'il allait réfléchir, effectivement, aux bases de son système de rémunération, ce qui me semblait être assez sage après tout.
Ouais. Ça veut dire que pour vous, il faut prendre en compte tout ce que vous venez d'évoquer pour payer les gens.
Ben, est-ce que ça fait partie du travail ? Est-ce que ça permet de définir ce qu'est le travail ?
Le travail de l'homme, au moins.
Ben oui, bien sûr, parce que si on paye les hommes comme des machines, ça c'est assez facile. D'ailleurs, il y a des systèmes de rémunération qui sont basés là-dessus. C'est-à-dire, on paye les gens à la classification, on les paye au poste. En fait, on paye pas les personnes, on paye un poste, on paye un niveau de complexité, on paye, mais c'est pas le travail. C'est pas le travail. C'est l'idée qu'on se fait du travail, mais c'est pas le travail réel.
Alors, ceci étant, ça veut dire que vous contestez la formule, travail égal, salaire égal.
Ah non, pas du tout, je conteste pas la formule, je la trouve au fond assez épatante, mais à condition de se servir du principe de réalité. Donc, moi je veux bien travail égal, salaire égal, mais disons, définissons ce qu'est le travail.
Ça voudrait dire qu'il y a deux personnes qui travaillent strictement de manière égale pour qu'elles aient un salaire égal.
Ben, qu'est-ce que le salaire d'abord ? Il faut peut-être redire ce qu'est le salaire. Le salaire, c'est la contrepartie d'un service rendu.
Tout à fait. Bon,
et à partir du moment où on dit que le salaire est la contrepartie d'un service rendu, qu'est-ce que le service ? Donc, et le service est multiforme. Est-ce qu'il y a de la relation dans le service ? Est-ce qu'il y a de l'aide ? Est-ce qu'il y a de la disponibilité ? Est-ce qu'il y a de la bonne humeur, de l'égalité d'humeur ? Est-ce qu'il y a de la bienveillance ? Est-ce qu'il y a de la coopération ? Est-ce qu'il y a de la enfin, vous voyez,
le respect des autres, etc.
Voilà, etc. Et en fait, pour avancer concrètement dans l'entreprise, il y a des questions très simples à poser aux collaborateurs de l'entreprise. C'est toujours les mêmes questions. Hein. C'est pour bien faire le travail qui vous est demandé. Qu'attendez-vous des gens qui vous entourent? C'est-à-dire, qu'attendez-vous de vos collègues? Qu'attendez-vous des gens qui dépendent de vous, si vous en avez? Et puis, qu'attendez-vous de vos responsables, de vos chefs? Bon, et ces questions-là, moi, j'ai eu l'occasion de les poser pendant 25 ans, 30 ans, dans des univers différents, des personnes différentes, dans des métiers différents, etc. Et la chose extraordinaire, c'est que tout le monde dit la même chose.
Dans différentes langues.
Et y compris dans différentes langues. Donc, bien sûr, il y a un petit biais culturel, mais fondamentalement, les gens expriment toujours les mêmes choses. Ce qu'ils attendent, ce sont des qualités. Ce sont des qualités. C'est pas des compétences. Ce sont des qualités comportementales. Ce sont des qualités de relation. C'est tout ce qui tourne autour d'un climat de confiance, d'un climat de responsabilité. Tout ce qui tourne autour de bonnes règles de délégation, de bonnes règles de délégation de pouvoir, etc. De bonnes règles de communication, etc. Et là-dedans, il y a absolument rien de mesurable. Tout est observable, tout est réel, mais il y a rien de mesurable. On peut pas mettre ça dans des tableaux de bord, on peut même pas le modéliser.
Ce qui veut dire que finalement cette contestation d'une certaine manière de la formule à travail égal salaire égal, vous la faites au nom de la justice, reconnaître à chacun ce qui lui est dû.
Alors, je pense que nous arrivons là au moment de faire une petite pause et nous reviendrons vers cette justice dans quelques instants. Nous nous sommes quittés sur cette question de la justice, Yann, et s'agissant d'une vertu chrétienne, peut-être pouvons-nous donner un éclairage au sein de l'entreprise.
Et je crois qu'on a oublié une chose dans nos échanges, c'est que reconnaissance suppose connaissance.
Alors oui, tout à fait. Ça, c'est rudement intéressant et ça laisse parfois dans un abîme de perplexité. Quand on lit les Écritures, on se rend compte que quand Dieu s'adresse à de futurs prophètes, par exemple, il appelle Samuel par son prénom. Quand le Christ s'adresse à ses apôtres, ceux qui deviendront ses apôtres, il les voit de loin, il les appelle chacun par leur prénom. Quand il voit Zachée dans son figuier, il l'appelle par son prénom.
Et chaque être est unique.
Voilà. Et donc, forcément, ça signifie quelque chose dans la vision chrétienne. La connaissance de chacun par son prénom.
La reconnaissance, c'est forcément prendre en compte ce que chaque individu apporte à l'entreprise dans la qualité de service.
Alors, la reconnaissance appliquée à l'entreprise, c'est exercer un devoir de justice de façon pratique. Bien sûr, cet exercice de justice est jamais parfait, mais en tout cas, il doit être clair et de reposer sur des bases que tout le monde soit capable à la fois de comprendre et d'admettre. Disons plutôt que lorsqu'on pose des questions aux gens sur leurs attentes principales, par rapport au travail, à l'exercice de leur travail, pour bien faire ce qu'il leur est demandé, ils disent tous les mêmes choses. Si on veut être réaliste dans l'entreprise, il faut tenir compte de ces attentes et en fait intégrer les attentes dans les modèles d'évaluation des personnes et de leurs performances. Ça veut dire que, par exemple, si on veut schématiser les choses, il y a 5 points dont il faut tenir compte dans un processus d'évaluation et de reconnaissance des personnes. Le premier et le dernier sont dans l'ordre de l'évidence. Le premier, c'est la compétence des gens, c'est la capacité à exercer un métier, le développement dans son métier, etc.
Oui, à maîtriser le poste.
Voilà, la maîtrise du poste. Le dernier est tout aussi évident, on en parlait d'exigence de résultats, et donc on est tous mesurés d'une certaine façon par les résultats du travail. Mais les 3 critères du milieu, qui sont des critères essentiels, sont des critères de mise en œuvre, en fait, des compétences pour devenir performant. Et donc, je les rappelle, c'est la force de mise en valeur d'autrui, c'est la force de cohésion et c'est la force de proposition.
Effectivement, vous nous aviez parlé lors d'une autre émission concernant les managers et les personnes en charge.
Voilà. Et donc, la difficulté classique qui est soulevée lorsque on propose de mettre en place ce système d'évaluation, c'est la subjectivité des 3 critères du milieu. De 2 choses l'une, où on considère que ces critères sont absolument indispensables à l'obtention de la meilleure performance, et donc il faut en tenir compte. Ils sont subjectifs, eh bien la belle affaire...
Et de la meilleure reconnaissance de la personne.
Voilà. La belle affaire, il y a plein de choses qui sont subjectives et qui sont absolument essentielles, mais c'est pas parce que c'est subjectif que c'est pas observable et qu'on ne peut pas formuler de jugement. Alors après, il y a évidemment des règles de prudence, c'est-à-dire que dans ces processus-là, faut pas évaluer tout seul, il faut s'efforcer d'évaluer sur des faits, avec d'autres, etc. Et même être capable de soumettre son évaluation à la personne qui va être évaluée, c'est-à-dire de le but d'une évaluation, c'est pas le tribunal, c'est pas le jugement. Le but, c'est de se mettre d'accord sur une vision commune de la façon de travailler et de progresser. C'est ça l'essentiel. Bon. Et donc pour ça, on n'a pas besoin d'ordinateur, on n'a pas besoin de robot, on n'a pas besoin de tableau de bord, on a besoin de personnes. Et donc, replacer les personnes au cœur de l'attention, ça veut dire confier les personnes à d'autres personnes pour rendre ce service-là.
On est bien donc là dans cet objectif qui est de faire croître, faire grandir les personnes pour les amener vers leur perfection, qui peut aller jusqu'à la perfection éternelle.
Absolument, on peut aller jusque-là. Maintenant, dans l'entreprise, c'est pas nécessairement des sujets dont on va parler facilement. Mais il y a un devoir de réalisme qui consiste à prendre en considération ce qu'est notre nature humaine. Si on est en dehors de ce principe de réalité humaine, on est à côté de la plaque. Il va manquer quelque chose, et donc ce quelque chose, on va le constater soit par des souffrances au travail, soit par de l'inefficacité, et parfois par les deux.
Eh bien, je crois que nous allons rester sur ce principe de réalité humaine et que nous remettrons régulièrement l'homme au cœur de la tension.